Bonjour, Raymond Richard au micro avec Isabelle Conan pour l'émission Les mots de la foi. Et nous poursuivons la lecture de l'évangile de Matthieu.
Après le chemin de croix, un monde nouveau proposé par Terre solidaire. Alors, nous arrivons au cœur de l'évangile de Matthieu et le chapitre 11 s'ouvre sur l'interrogation de Jean-Baptiste. Qui es-tu, Jésus ?
Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya demander par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent droit. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi.
Alors la réponse de Jésus, c'est non pas de dire, eh bien, moi je suis le Messie, mais c'est de reprendre ce qui, dans l'Ancien Testament, disait la venue du Messie. Donc, en disant ce que vous entendez, voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc., Jésus dit d'une façon imagée, mais que les gens de cette époque comprenaient bien, qu'il est le Messie. Et puis, il poursuit sur l'identité de Jean.
Alors, qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le déclare. Et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager en avant de toi. Il préparera ton chemin devant toi. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
Voilà, donc Jean le Baptiste avait posé les questions, Jésus avait répondu, et il poursuit en décrivant Jean-Baptiste comme étant le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, mais que ce qui arrive avec lui, eh bien, le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, il revient sur lui-même, et là on est véritablement dans le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Alors ce n'est pas un passage qui se fait en opposition, mais il poursuit l'action de Jean-Baptiste pour révéler qui il est.
C'est lui, si vous voulez bien comprendre, l'Élie qui doit revenir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. En effet, Jean est venu. Il ne mange ni ne boit, et l'on dit, il a perdu la tête. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs.
Donc, le Christ poursuit autour de Jean-Baptiste en faisant de lui l'Élie. Et Élie, c'est dans l'Ancien Testament, celui que l'on attendait pour la fin du monde, pour le royaume. Et c'est d'ailleurs Élie que l'on retrouvera auprès de Jésus le jour de la transfiguration. Donc, Jean est bien ce plus grand des prophètes, mais en même temps, le Christ poursuit la comparaison avec lui-même. Jean est venu, il ne mange ni ne boit, et on dit, il a perdu la tête. Le Christ vient et mange avec les gens, et on dit, c'est un glouton. Donc, il interpelle d'une certaine manière son auditoire pour dire, eh bien, vous pourriez peut-être être plus intelligent et mieux comprendre qui je suis.
Vous écoutez Radio Grand Ciel.
Radio Grand Ciel. La radio qui rapproche les hommes.
Et il poursuit en se lamentant sur les villes de Galilée et la Galilée qui est contente qu'il fasse des miracles, mais qui ne le suit pas.
Alors, il se mit à invectiver contre les villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties.
Et notamment Capharnaüm.
Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Aussi bien, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi.
Donc là, le Christ poursuit son enseignement auprès des disciples et des personnes qui sont là, en disant, « Eh bien, vous ne m'avez pas reconnu. Vous ne reconnaissiez pas Jean, le Baptiste. Vous ne me reconnaissez pas. Alors que d'autres villes, et puis vous pourriez au moins me croire à cause des miracles que je fais. » Et d'où l'invective aux villes. Et il le dit clairement. « Connaissez-moi au moins à cause des miracles que je fais. » Et puis il revient sur la relation qu'il a avec son père. Le jour de son baptême, le Père Dieu donc a bien rappelé que c'était lui le Fils et c'était lui son envoyé. Et le Christ poursuit, son autorité vient accomplir l'Ancien Testament. Et il propose la nouvelle loi en disant « Prenez mon joug ».
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger.
Bien, le Christ poursuit son enseignement. Il avait rappelé qu'il voulait la miséricorde, que sa venue, c'était justement le signe des aveugles qui voient et des boiteux qui dansent, et que son joug vient accomplir la loi, mais en même temps la simplifier, et la rendre plus aisée pour tous.
Oui, en fait, il propose quelque chose de totalement différent de la
loi nouveauté
ancienne.
De sa loi.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se fait en fait dans la douceur, la paix et le repos.
Alors qu'il était quand même sévère auparavant, mais c'est cela, il dit, mais c'est nouveau. Et puis, il poursuit, ou plutôt Matthieu poursuit cet enseignement, en nous racontant l'épisode des épis de blé arrachés par les disciples un jour de sabbat, et Jésus vient rappeler que le sabbat s'est fait pour l'homme, et non l'inverse. Avec un miracle nouveau qui oblige ceux qui voient le miracle à réfléchir justement sur ce qu'est le sabbat.
Les deux controverses là qui suivent, l'arrachage des épis et la guérison d'un paralysé le jour de sabbat, ils vont montrer en quoi enfin, le joug de Jésus, la loi, est un fardeau plus léger, qui vient donner un sens nouveau à la loi de Moïse, à la loi ancienne.
Alors on peut écoutez ce passage de l'homme à la main paralysée, parce que, en plus, l'affrontement avec les pharisiens se renforce.
De là, il se dirigea vers leur synagogue et y entra. Or, se trouvait là un homme qui avait une main paralysée. Ils lui posèrent cette question. Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était pour l'accuser. Mais il leur dit, « Qui d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira la prendre et l'en retirer. Or, combien l'homme l'emporte sur la brebis? Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Alors il dit à cet homme, étends la main. Il l'étendit et elle fut remise en état, aussi saine que l'autre. Une fois sorti, les pharisiens tinrent conseil contre lui sur les moyens de le faire périr. »
Voilà, Jésus pousse la réflexion sur le sabbat, en rappelant que lui, justement, est maître du sabbat. Les pharisiens essaient de le faire déconsidérer en posant la question « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ?» Et le texte précise « C'était pour l'accuser. » Le Christ répond par une question et puis en disant « L'homme l'emporte sur la brebis et il est permis de faire le bien et il guérit l'homme. » Jésus est le serviteur de Dieu, Jésus vient apporter la loi d'amour de Dieu. Il nous a dit « Prenez mon joug qui est léger » et Jésus poursuit ce qui amène les pharisiens à décider de le faire périr, nous dit l'Évangile.
Oui, alors que les foules, elles, justement à ce moment-là, elles sont prêtes à reconnaître en Jésus le fils de David.
Le fils de David qui fait le bien sans limite, donc c'est quelque chose d'important. Et dans ce cas, les pharisiens accuse Jésus de guérir par les démons. Et Jésus n'accepte pas cette controverse et au contraire fait valoir que le refus d'écouter Dieu n'est pas sans conséquence.
Alors, on lui amena un possédé aveugle et muet. Il le guérit, en sorte que le muet parlait et voyait. Bouleversé, toutes les foules disaient « Celui-ci n'est-il pas le fils de David ?» Mais les pharisiens, entendant cela, dirent « Celui-là ne chasse les démons que par Belzéboul, voilà. Le chef des démons. »
Voilà, donc, on voit comment la controverse s'envenime avec les pharisiens. Et là, le Christ renvoie les pharisiens en leur disant « Et vous, par qui faites-vous les choses ?» Et il conclut sur le péché, disons, qui se voit au courant de la vie, sur lequel se basaient les pharisiens pour lui dire ce qui compte, c'est le péché contre l'esprit.
Voilà pourquoi je vous le déclare, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné.
Le Fils de l'homme, c'est le Christ, et le Christ est venu apporter ce fardeau léger, son joug, et il poursuit en proposant encore une comparaison entre un arbre qui donne de bons fruits et le cœur de l'homme qui peut donner aussi de bons fruits.
Supposez qu'un arbre soit bon, son fruit sera bon. Supposez-le malade, son fruit sera malade. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. « Engeance de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon, de son bon trésor, retire de bonnes choses. L'homme mauvais, de son mauvais trésor, retire de mauvaises choses. Or, je vous le dis, les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole sans portée qu'ils auront proférée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. »
Alors ici, le Christ rappelle que, eh bien, c'est du cœur que viennent les bonnes paroles, les paroles de miséricorde. L'homme bon, de son trésor, tire de bonnes choses. Et puis, aussi, parle positivement du Christ. Donc, là, le Christ renforce l'enseignement qu'il a donné, en rappelant que la loi qu'il apporte, c'est une loi qui vient du cœur. Et il poursuit en rappelant le signe de Jonas. Jonas, pour mémoire, avait été voir les Ninivites, au-delà des péripéties qui l'amènent dans le ventre de la baleine, et il enseigne aux Ninivites que, oui, ils se conduisent mal et qu'ils vont être punis. Mais les Ninivites entendent Jonas et se convertissent. Donc, le Christ rappelle aux pharisiens une histoire qu'ils connaissent, le signe de Jonas, les Ninivites convertis. De même, la reine de Saba se rend vers Jésus, alors que eux restent endurcis et toujours tournés vers l'ancienne loi.
Dans ce passage, en fait, il vient marquer une orientation nouvelle à son ministère.
Voilà, une orientation nouvelle pour son ministère, et en rappelant que ce sont les païens qui jugeront les juifs. Donc, la reine de Saba se déplace, les Ninivites sont convertis, la bonne nouvelle est apportée avec le Christ, mais on ne l'entend pas toujours. Eh bien, et c'est sur cette loi, à la fin du chapitre 12, que nous vous laissons et nous vous disons à bientôt sur les ondes de Radio Grand Ciel pour poursuivre la lecture de Matthieu. Bonne semaine à tous, au revoir.